Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après VibraSOS, c'est Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que ce soit en direct ou alors si vous avez eu la bonne idée de récupérer les podcasts sur le site Internet de Graphite. Et puis vous suivez bien sûr l'actualité de Graphite sur les pages Facebook. Il y a pas mal d'actualités avec Graphite en ce moment bien sûr. Donc tenez-vous informés, n'hésitez pas, contactez-nous également. Vous pouvez suivre le fil Twitter également, donc plein de moyens pour nous contacter et suivre l'actualité de Graphite. En ce moment, vous écoutez Biotine avec Jean-Noël pendant une heure sur l'antenne de Graphite. Biotine, c'est l'émission de science tous les samedis pendant une petite heure. On feuillette comme ça un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique, avec des sujets qui nous concernent, qui vous concernent et qui concernent notre quotidien, notre santé, notre environnement, la technologie qui nous entoure. Et puis, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace, parce que l'espace, maintenant, est également un terrain de jeu de plus en plus prisé des grandes puissances internationales. On va regarder cela également dans cette émission. C'est ce que je vous propose aujourd'hui pour cette journée du 6 avril. Nous sommes le samedi 6 avril, vous nous écoutez aussi peut-être en rediffusion le mardi matin, donc ne vous étonnez pas si je parle du samedi, c'est que l'émission de base est bien diffusée le samedi, elle est rediffusée sur Graphite à 10h le mardi matin. Et donc pour ce 6 avril, c'est la journée internationale du sport pour le développement et la paix. J'ai pas trop compris le lien, mais bon, si c'est la journée internationale du sport pour le développement et la paix, eh bien on va donc tous faire du sport juste après cette émission, on va en profiter. Le 6 avril 2014, il y avait l'annonce de la découverte d'un océan d'eau liquide sur la surface gelée d'Encelade, c'est l'une d'un satellite de Saturne. Une lune de Saturne, et on a découvert de l'eau là-bas. Ça présage pas mal de bonnes choses. Pour cette éphéméride du 6 avril, on peut célébrer la naissance de Guillaume Bigourdan, le 6 avril 1851, un astronome à l'Observatoire de Paris. Il était également président de l'Académie des sciences. Il est connu pour sa méthode de mise en station des télescopes, qui est encore cette méthode utilisée par de nombreux astronomes amateurs. Son œuvre principale, c'est l'étude des nébuleuses qui lui a valu d'être distingué de la médaille d'or de la Royal Astronomical Society de Londres. C'était en 1919. Guillaume Bigourdan, qui est quand même un nom qu'on ne connaît pas trop, c'est le fils aîné d'une famille paysanne de 3 enfants et son intelligence ayant été remarquée par son instituteur et par le curé du village également, eh bien ses parents ils vont s'imposer de lourds sacrifices pour lui offrir une scolarité. Il décroche donc son baccalauréat en 1870. Ensuite, il fait une licence de physique. Il fait également une licence de mathématiques. Tant qu'à faire, quand on est lancé, on en profite. Et il entre donc à l'Observatoire de Toulouse en 1877, puis 2 ans après, à l'Observatoire de Paris. Son métier lui donne l'occasion de voyager, notamment à la Martinique, et il va également jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc il aura pas mal voyagé, cet astronome Guillaume Bigourdan, né donc un 6 avril 1851. Il meurt en 1932. Il aura une vie bien complète et intéressante. Un décès en ce 6 avril, c'était en 1961, celui de Jules Jean-Baptiste Vincent Bordet. C'est un immunologiste et un microbiologiste. Donc là, on est plutôt dans la science du vivant. Il est belge, il est né en Belgique, il est mort à Bruxelles. Il est lauréat du prix Nobel de physiologie en 1919. Et il y a des bactéries à qui on a donné son nom. Elles sont des bactéries qu'on appelle les Bordetella. C'est un éminent pionnier de la microbiologie, Jules Bordet. Donc il a été le premier scientifique belge à se voir récompensé du prix Nobel de physiologie ou de médecine. C'est à peu près la même chose à l'époque. Jules Bordet, voilà. Et donc mort un 6 avril 1961. Ça, c'est l'éphéméride pour cette émission. Et comme maintenant, depuis janvier, tous les samedis, nous allons remplir tous ensemble ce fameux tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Ce tableau qu'on avait tous dans nos salles de classe et qui classifiait l'ensemble des éléments chimiques. Donc on connaissait bien sûr l'hydrogène, l'azote, le carbone et ainsi de suite. Vous voyez à peu près ce tableau assez complexe. Et à l'occasion de l'année internationale de ce tableau, parce qu'on a envie de célébrer ce tableau pendant toute cette année 2019, c'est ce qu'a décidé l'ONU et donc on se plie aux exigences de l'ONU. Donc on va remplir aujourd'hui la case 82. 82, donc ça veut dire que c'est quand même déjà un petit peu plus bas dans le tableau. Et pourtant, c'est un élément qu'on connaît très bien, c'est le plomb. Le plomb qui est connu depuis l'Antiquité. Les Égyptiens utilisaient justement ce qu'on appelle le kohl à base de galène pour essayer de souligner un petit peu le regard d'un trait noir. Les Romains, ils utilisaient abondamment le plomb dans leur réseau d'eau potable. Quand on l'additionne au verre, eh bien, on obtient un cristal qui donne un éclat remarquable. Et donc ce plomb, c'est à la base un métal blanc-gris à peu près, qui offre une grande résistance électrique et aussi une température de fusion peu élevée. Et donc ça lui a valu d'être utilisé, bien sûr, comme fusible dans les premiers dispositifs électriques. Le cristal de galène, c'est un sulfure de plomb, était utilisé dans les premiers postes radio, le fameux poste à galène, bien sûr. Et aujourd'hui, le plomb est utilisé principalement dans les batteries de voitures. Mais on est quand même confronté à une forte toxicité, si bien qu'on restreint un petit peu les usages du plomb. Il a longtemps été utilisé pour la fabrication donc des fusibles et bien évidemment, on lui doit cette expression de faire sauter les plombs quand on s'échauffe un peu trop. Le plomb, il est associé dans les minerais à de nombreux autres éléments, en particulier le zinc, l'argent également. C'est aussi l'un des métaux pour lequel le taux de recyclage est le plus élevé, près de 60%. De la consommation, c'est quand même pas mal parce qu'elle est concentrée, cette consommation, essentiellement dans les batteries et donc il est possible de pouvoir récupérer le plomb quand on jette ensuite les batteries ou en tout cas qu'on les recycle. Donc c'est quand même un métal qu'on arrive encore à utiliser et qu'on peut encore arriver à recycler, ce qui est quand même assez intéressant. Son symbole chimique, bon, on ne s'est pas trop tracassé pour essayer de trouver un symbole chimique. On a pris le P majuscule pour plomb et comme il y avait plusieurs P qui existaient, on a rajouté un petit B et c'est donc le plomb numéro atomique 82. Voilà, donc si tous les samedis vous nous écoutez et que tous les samedis vous remplissez comme une grille de loto le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, et bien là vous avez donc rempli le 82 pour le plomb. C'est ça l'éphéméride de cette émission Biotine. On va parler pas mal des femmes, j'allais dire aujourd'hui, mais c'est un petit peu l'actualité qui veut cela. Par exemple, la récompense pour cette première femme qui a remporté le prix Abel, c'est Karen Uhlenbeck, qui a donc reçu le prix Abel 2019 pour son travail fondamental dans l'analyse géométrique et la théorie de jauge, qui a radicalement modifié le paysage mathématiques, c'est ce qu'a déclaré donc dans une allocution le président du comité Abel. Ces théories de Karen Uhlenbeck ont révolutionné notre compréhension des surfaces minimales telles que le sel formé par des bulles de savon et des problèmes de minimisation plus généraux en dimension supérieure. C'est ce qu'il a fait donc valoir dans un communiqué. On ne comprend pas trop sur quoi elle a travaillé, mais on comprend qu'apparemment c'était important. Elle a 76 ans. Aujourd'hui, Karen Uhlenbeck, elle est maître de recherche universitaire à l'université de Princeton. Elle est également professeure associée à l'Institute for Advanced Studies, c'est aux États-Unis, et elle est donc née à Cleveland et elle a élaboré des outils et des méthodes d'analyse globale qui font dorénavant partie de la boîte à outils de tout géomètre et de tout analyste. C'est ce qu'a donc souligné l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Karen Uhlenbeck, elle est également une figure de proue de l'égalité des sexes en sciences et en mathématiques. Il s'agit donc de la première femme à recevoir le prix Abel, qui a été créé en 2003 par le gouvernement norvégien avec l'objectif de combler un petit peu l'absence de prix Nobel de mathématiques. Il porte le nom du mathématicien norvégien Abel et ce prix est doté quand même de 6 millions de couronnes, ce qui représente à peu près 620 000 euros, ce qui est quand même pas mal. L'une des plus prestigieuses distinctions au monde dans le domaine des mathématiques, avec aussi bien sûr la médaille Fields qu'on connaît, qui est attribuée tous les 4 ans. Mais voilà, pour la première fois, une femme remporte le prix Abel et c'était quand même assez important de pouvoir bien commémorer celui-ci et d'en parler dans cette émission. Elle s'appelle Karen Uhlenbeck. Voilà, on va continuer de feuilleter l'actualité scientifique et on va partir dans l'espace avec SpaceX et notamment Elon Musk qui annonce le début des essais en vol d'un prototype du fameux Starship. On en a parlé très souvent dans cette émission. On va donc suivre cette actualité-là tout de suite après un petit titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Yeah. Taiwan easy. Scratch bandits. Easy bandits. God, no. What we telling them? From Bristol to Paris to the world. You don't know. What we telling them? From this road. They telling me take it easy, but I don't know that easy way. I gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me fierce, pussy, listen when we say. Stays where we both say them now fade away. Believe it or not, no. Are you ready to kill that drop? Then you gonna listen again. Then you gonna be like, whoa. Here we cast nice punch up. And I'm a badder than them. And I got the wickedest flow. Me to the eye when I sing, stick it and shit. My style is cold. Siberian, Liberian, get murk when I'm in my zone. Mice get murder, might have never heard a vibe like this. None of them bad like this. None of them do it like this no more. Y'all of them sing like them, sell them soul long ago. Telling me take it easy, but I don't know that easy way. Gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me fierce, pussy, listen when we say. Stains we both say, them now fade away. I can't believe that, God, the man's at it again. Been telling them before and I told them, already telling them to them. Bonjour Taiwan, Sabablo comment by two. They call me the gardener, cause I could garner, they digging my tunes. They telling me take it easy, but I don't know no easy way. Telling me take a break, my man, you need a holiday. I've been on that music grind, just trying to pave my way. And I ain't gonna stop till I'm chilling in a house with a leg of bass, safe. They telling me take it easy, but I don't know that easy way. I gotta be the best, east and west, night and day. Don't watch me feel supposed to listen when we say. Stains when we both say them now fade away. They telling me take it easy, I don't know that easy way. East and west, night and day. I gotta be the best AI. Yo. Yo. Bust it again, spit it again. Give them the vines and want them again. Get it already, MC not ready. Sticking me dead, steady me steady. Bad like Freddy Violet version. Bad like Woody God, bad like Russian. Eat to the eye, man, and lyrical done. Woody God, now we done bury this one. 6 foot deep, them can't reach. Sound why this is no meet and greet. Come for the killing, brutality. Lyrical violence, insanity. Who that Taiwan MC, remember the name. Paris City, still in the game. Black MCs in the flames, don't be silly. Believe it or not, c'était Scratch Bandicoot sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait parler des femmes. C'est l'actualité qui veut ça. Et notamment les femmes qui partent à la conquête de l'espace. Hein. C'est le message qu'a voulu faire passer l'administrateur de l'agence spatiale américaine, la NASA. Il explique qu'il est probable que la prochaine personne sur la Lune sera une femme et la première personne sur Mars sera aussi probablement une femme. C'est ce qu'il a annoncé, Jim Bridenstine, dans une émission Science Friday. C'est une émission de la radio américaine WNEC, oui, donc c'est à New York que ça se passe. C'est une radio américaine qui fait une émission de science. Il n'y a pas de raison que nous aussi on n'en fasse pas. Et en tout cas, le responsable de la NASA, s'il veut parler à l'antenne de Graphite, il n'y a pas de problème. Il a donc annoncé justement que la prochaine personne à marcher sur la Lune sera sans doute une femme. Il y a de nombreuses femmes qui ont été dans l'espace depuis au départ la soviétique Valentina Tereshkova en 1963. Et la NASA compte de nombreuses astronautes féminines. Mais les 12 astronautes à avoir marché sur la Lune lors des missions Apollo, c'était entre 69 et 72, c'était exclusivement des hommes et depuis aucun humain, aucun homme, aucune femme n'est retourné sur la Lune. Et donc la NASA est en train de construire la fusée la plus puissante de tous les temps, la Space Launch System, et une capsule baptisée Orion pour le retour des humains, des hommes et donc des femmes sur la Lune. On prévoit ça en 2028, ça va être assez rapide finalement. Et puis Mars, on est toujours dans cette idée d'avoir une mission habitée qui est prévue dans les années 2030, nous dit-on. Faut pas se leurrer, c'est quand même assez rapide et la technologie avance à grands pas. Il se peut que ce soit un petit peu avancé dans le temps. Mais donc voilà, les femmes deviennent, et c'est tant mieux, de plus en plus importantes dans, et de plus en plus présentes dans la conquête de l'espace. Et voilà, l'administrateur donc de la NASA qui annonce que la prochaine personne sur la Lune sera sûrement une femme. On suivra bien sûr tout cela bientôt. Et donc je vous disais juste avant le titre qu'on vient d'écouter qu'on allait parler de SpaceX. SpaceX qui veut également envoyer autour de la Lune en 2023 le japonais Maezawa et sa bande d'amis à bord du Starship. Et donc l'idée c'est de réaliser les premières missions habitées à destination de Mars dès le début de la décennie prochaine. Donc on est bien dans le, à peu près dans les années 2030. On est à peu près dans ces eaux-là. Et SpaceX s'apprête à réaliser donc le premier test d'un prototype, parce qu'il faut quand même maintenant essayer de faire des tests un petit peu en grandeur nature, et le prototype de ce futur véhicule spatial. Alors avant il s'appelait, et on en avait parlé dans cette émission, le Big Falcon Rocket. Alors maintenant on va l'appeler Starship, ça sera peut-être un petit peu plus classe, je n'en sais rien. En tout cas c'est le futur système de transport spatial à tout faire de SpaceX, et dès sa mise en service il va remplacer dans des délais très courts l'ensemble de la gamme actuelle de lanceurs et de systèmes de transport de fret qui est donc de la propriété de SpaceX. Et donc ce premier test sera réalisé depuis le site de lancement de Boca Chica, c'est au Texas, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce test s'inscrit en fait dans une série d'essais de petits décollages et des atterrissages verticaux de plus en plus haut pour l'heure. Il s'agit seulement d'au moins un tir statique. Après, on va faire des vols à très faible altitude de quelques mètres. Cependant, SpaceX a quand même une autorisation pour tester son engin jusqu'à au moins 4 500 km, ce qui est quand même pas mal pour faire des essais. Le porte-parole de SpaceX, il s'appelle James Gleason, il a confirmé dans un communiqué que justement SpaceX procédera à des vérifications des systèmes au sol nouvellement installés et effectuera un court essai de tir statique dans les prochains jours. On ne sait pas trop précisément, mais ça va se faire assez rapidement. Bien que le prototype soit conçu pour effectuer des vols suborbitaux ou des sauts, eh bien, l'étage sera attaché au sol lors des tests initiaux. Les sauts ne seront pas visibles depuis l'extérieur du site de Boca Chica, donc ce n'est pas la peine de vous rendre au Texas et de vous mettre autour des barbelés pour essayer de voir quelque chose. On ne verra apparemment rien pour ces premiers essais. Et donc, ces essais ont pour but de tester en l'air le nouveau moteur qu'on va déployer. Il s'appelle Raptor. C'est quand même, il s'amuse pas mal avec les noms finalement. Et on a donc un nouveau moteur qui va remplacer l'ancien moteur qu'on avait appelé Merlin. Ça faisait plus sérieux quand même quelque part, qui avait fait les beaux jours du Falcon 9. Et donc Raptor, l'idée c'est de pouvoir le réutiliser, mais il va fonctionner avec un mélange de carburant un petit peu différent. Il va utiliser de l'oxygène, du méthane liquide, alors que Merlin, l'ancien moteur, utilisait encore du kérosène et de l'oxygène liquide. Et l'idée, c'est que ce nouveau moteur, il soit bien sûr plus puissant et qu'il puisse voilà, générer une poussée vraiment très très importante pour pouvoir arriver à faire des décollages efficaces, rapides. Donc, ces essais vont être mis en place bientôt. C'est une nouvelle étape importante, bien sûr, parce que si on veut aller sur Mars, il va falloir à un moment commencer à pratiquer des essais grandeur nature, non plus des simulations sur ordinateur, ça c'est fini. Et donc voilà, on est en train d'insister, mesdames et messieurs, à la conquête spatiale, à la conquête de Mars. Ça se concrétise enfin et on suivra cela. On aura, je n'en doute pas, pas mal de communiqués, pas mal de vidéos que l'on pourra visionner pour essayer d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment. Mais donc voilà, l'espace est encore et toujours un petit peu au cœur de l'actualité scientifique. Parce que si on ne s'intéresse pas à l'espace, on s'intéresse à la médecine, à la santé. Et il faut quand même avouer qu'on a là encore une actualité qui n'est pas totalement réjouissante et qui, quelque part, corrobore un petit peu ce que l'on se disait. Par exemple, si on nous annonce qu'il y a un lien entre la malbouffe et les maladies mentales, on se dit oui, sûrement. Et bien, c'est un petit peu ce que nous annonce cette étude menée menée par des scientifiques de l'Université de Californie. Les adultes qui consomment moins d'aliments dits qu'on va appeler sains, c'est-à-dire ils vont manger moins de fruits et légumes, ils vont manger plus de frites, ils vont manger un petit peu des produits transformés, des sodas, eh bien ces adultes sont plus susceptibles de rapporter des symptômes de troubles psychologiques modérés ou sévères, plus que les personnes qui vont privilégier une alimentation plus équilibrée. Donc ce résultat de cette étude est assez inquiétante, et pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des données qui concernent près de 250 000 personnes. Là encore, c'est toujours intéressant parce que dans cette émission, on parle très souvent de résultats expérimentaux, d'études qui sont menées, mais tout dépend sur quel panel on se base. Une étude sur une centaine de personnes, on peut se dire quelque part qu'elle a moins d'impact qu'une étude qui a été menée, dans l'occurrence ici, sur près de 250 000 personnes. Ils ont, ces 250 000 personnes, répondu à des questionnaires qui comprenaient des informations vraiment approfondie sur les données sociodémographiques, sur la santé, le comportement face à la santé, et également essayer d'en savoir un petit peu plus sur leurs habitudes alimentaires. Et les résultats restent quand même assez inquiétants. On a pris en compte, et bien sûr, tout ce qui était âge, tout ce qui était niveau de revenu, tout ce qui était statut marital également. Donc toutes ces notions-là ont été prises en compte dans cette étude. Et le principal auteur de cette étude, Jim Bentay, il a commenté ces résultats en notant que ces résultats s'inscrivaient dans la lignée d'études précédentes menées dans d'autres pays qui avaient donc déjà trouvé un lien entre une mauvaise alimentation et des maladies mentales. Par exemple, une forte consommation de sucre avait déjà été reliée à certains troubles bipolaires, et les aliments frits avaient été associés également à la dépression. Et donc des études un petit peu précédentes avaient corroboré ces informations. Et donc là, cette nouvelle étude menée par cette université de Californie confirme là encore ce lien entre malbouffe d'une façon générale et maladie mentale. L'équipe de chercheurs note que cette étude offre des preuves additionnelles que les pratiques cliniques et les pouvoirs publics devraient plus explicitement viser, avec l'idée donc d'améliorer la qualité de l'alimentation chez les personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale, et ce même si leurs résultats ne suffisent pas à établir de lien de cause à effet entre une mauvaise alimentation et des maladies mentales. Eh bien, on va poursuivre les recherches, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais là encore, voilà, on est un petit peu dans une phase où on se dit maintenant ça semble être totalement indiqué et totalement plausible. Cela ne veut pas dire qu'on en connaît encore totalement les causes. Mais voilà, faites attention à vous, mangez sain, bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Allez, on va écouter encore un titre et puis on va continuer comme ça de feuilleter l'actualité scientifique. Soit on part dans l'espace et ça nous fait rêver, soit on reste sur Terre et on parle de la pollution. C'est pas vraiment joli, joli ce qui se passe en ce moment sur l'actualité scientifique. Tout de suite sur l'antenne de Graphite. that you have. C'était Namedos sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison. Ce que vous dites, tiens, on va se tenir informé de l'actualité scientifique, ça va être sympa, on va rêver avec les nouvelles technologies et ainsi de suite. Eh bien non, l'actualité scientifique, elle n'est pas toujours réjouissante et parfois des études montrent encore qu'il y a énormément de problèmes à résoudre à l'échelle un petit peu de l'échelle de la planète. Faut pas se leurrer et là encore on a un exemple flagrant en ce qui concerne la pollution et on apprend chaque année que près de 800 000 personnes en Europe meurent de façon prématurée en raison de la pollution atmosphérique. 800 000 personnes par an, c'est quand même énorme. Et on considère que entre 40 et 80% de ces décès prématurés sont dus à des maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'estiment des chercheurs allemands qui ont donc publié une nouvelle étude dans la revue European Heart Journal. Cela veut dire que la pollution de l'air fait plus de morts chaque année que le tabac. C'est ce qu'annonce l'un des auteurs, le professeur Thomas Münzel. Il travaille à l'université de Mayence, donc en Allemagne. Or, dit-il, si on peut éviter de fumer, on ne peut pas éviter d'être soumis à un air pollué. Et donc, les chercheurs estiment à donc à peu près 800 000 personnes le nombre de morts dues à la pollution de l'air pendant l'année 2015 dans l'ensemble de l'Europe, ce qui est quand même assez important, une estimation qui est nettement supérieure à celle de l'Agence européenne de l'environnement qui rédige et diffuse tous les ans un rapport. Et le dernier rapport expliquait qu'on jugeait la pollution de l'air aux particules très fines, au dioxyde d'azote, à l'ozone également, responsable de à peu près 518 000 décès prématurés. Et bien là, on est quand même sur des chiffres beaucoup plus importants. Une nouvelle étude qui est essentiellement consacré à l'Europe, bien sûr, même si les auteurs de cette étude ont également appliqué leur méthode de calcul à l'ensemble de la planète et ils arrivent à un chiffre astronomique, démentiel, 8 800 000 morts causées par la pollution de l'air rien que pendant l'année 2015 sur l'ensemble de la planète, dont près de 3 millions pour la Chine uniquement. Ce sont des chiffres faramineux et extraordinaires. Il y a des travaux précédents qui chiffraient un petit peu le total mondial des décès à 4 500 000. Et donc là, on en arrive à 8,8. Donc c'est quand même vraiment important en termes de millions. Et donc pour réviser ces chiffres, les chercheurs allemands ont essayé d'utiliser un nouvel outil statistique qui vont se baser sur un modèle qui va simuler la façon dont les gaz atmosphériques vont interagir avec les composés chimiques issus de l'activité humaine, la production d'énergie, l'industrie, les transports, l'agriculture, c'est-à-dire qui vont prendre des données beaucoup plus importantes, des systèmes de simulation un peu plus fiables, avec donc l'idée d'avoir des chiffres un peu plus corrects, sauf que ces chiffres un peu plus corrects sont encore beaucoup plus alarmants que ceux que l'on avait jusqu'à maintenant. Nous avons utilisé de nouvelles analyses des risques basées sur des données épidémiologiques beaucoup plus larges qu'auparavant et qui provenaient de 16 pays, c'est ce qu'indique à l'AFP l'un donc des scientifiques de ce groupe de chercheurs allemands. En moyenne, en fait, la surmortalité mondiale attribuée à la pollution de l'air par cette étude, elle est de 120 décès par an pour 100 000 habitants, ce qui est donc déjà quand même assez important. C'est en fait un taux qui est supérieur en Europe, bien que on sait qu'il y a des contrôles un petit peu plus stricts que dans d'autres régions, mais le problème, c'est que on essaye de combiner cette qualité de l'air qui est quand même assez mauvaise avec une forte densité de population, ce qui aboutit donc à une exposition parmi les plus élevées du monde en ce qui concerne l'Europe, selon donc le professeur Thomas Münzel. L'Europe de l'Est est en fait particulièrement touchée, notamment la Roumanie, l'Ukraine, avec vraiment des taux importants de décès prématurés. La France est dans une moyenne un peu basse, ok, c'est quand même des taux assez importants. Les auteurs donc de cette étude jugent bien sûr urgent de baisser les seuils d'exposition aux particules fines OK, il va falloir donc prendre des dispositions importantantes. Dans la mesure où la plupart des particules fines et les autres polluants de l'air en Europe proviennent de la combustion des énergies fossiles, il est donc urgent de passer à d'autres sources d'énergie, ce que nous indique donc ce communiqué de cette équipe de chercheurs. Oui, il va falloir passer à d'autres sources d'énergie, bien sûr. Et ces travaux semblent montrer que le risque cardiovasculaire lié à la pollution de l'air a été sous-estimé et ce constat paraît pertinent, c'est ce que commente une scientifique qui n'a pas participé à l'étude, qui travaille à l'université de Manchester et qui avait été interviewée également par l'AFP. Auparavant, on se concentrait sur les risques de cancer liés à la pollution de l'air ou les effets immédiats sur l'appareil respiratoire. Désormais, on comprend mieux le lien entre les problèmes cardiaques d'un côté, les effets sur le cerveau de l'autre, les questions de reproduction également. Donc on prend plus de données et on s'intéresse beaucoup plus aussi aux conséquences. Mais donc voilà, c'est important parce que du coup, on apprend que la pollution de l'air tue deux fois plus qu'on le pensait jusqu'à maintenant. C'est un vrai, une vraie problématique à prendre en considération, bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui est prévu. C'est-à-dire que là encore, on est sur des constats assez alarmiste, bien sûr, mais il va falloir maintenant peut-être essayer de prendre des dispositions à grande échelle, parce que ce n'est pas uniquement un pays qui va pouvoir tout seul essayer d'inverser la tendance. Là, ça se focalise essentiellement sur l'Europe, bien sûr. Dans d'autres pays du monde, c'est également très important. On a donc évoqué la Chine, bien sûr. Mais voilà, c'est une étude assez alarmiste et qui, quelque part, confirme un petit peu des études précédentes qui ont été menées sur cette combinaison, en tout cas ce lien de cause à effet entre la pollution de l'air et les morts prématurées. Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance, mais parfois l'actualité scientifique en ce qui concerne la santé et la médecine peut s'avérer quand même aussi un peu plus réjouissante. Et je pense que vous avez entendu parler de ce deuxième patient en rémission durable du virus du sida. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. On estime à plus de 36 millions de personnes dans le monde vivant avec ce virus du sida et environ 940 000 qui sont décédés d'une cause liée à ce virus, d'après des chiffres donnés par l'OMS. Le virus du sida, c'est en fait un rétrovirus qui va infecter des cellules du système immunitaire, les fameux globules blancs, pardon, et tout ça contribue bien sûr à affaiblir les défenses de l'organisme. Et à un stade avancé, le patient, il est plus susceptible de développer des infections et des cancers parce qu'il peut moins se protéger face à des agressions extérieures. Et donc le traitement utilise ce qu'on appelle une trithérapie. Donc trois antirétroviraux, mais cette façon de pouvoir se soigner, ça ne permet pas de guérir de l'infection. Et en plus, cette médication, elle doit être prise à vie. En 2017, 21 millions de personnes dans le monde prenaient donc ces fameux traitements antirétroviraux pour essayer de maîtriser leur infection. Mais aujourd'hui, des scientifiques ont donc annoncé, il y a quelques jours, que pour la deuxième fois dans l'histoire, il y a un patient qui semble guéri. Alors le premier s'appelait Timothy Brown, c'était ce qu'on appelait le patient de Berlin. Il avait été considéré comme le premier à avoir guéri du virus du sida. Il n'a plus de signes du virus depuis 2007, donc depuis maintenant 12 ans, il n'a plus de signes de ce virus. D'après une dépêche de l'AFP, eh bien, il y a le patient britannique qui, lui, a souhaité rester anonyme, avait été diagnostiqué séropositif pour le virus du sida en 2003 et il suivait un traitement antirétroviral depuis 2012. Et en 2012, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer également. Eh bien, il a essayé de recevoir une greffe de cellules souches en 2016. Et finalement, après la greffe, le patient a poursuivi son traitement encore antirétroviral pendant un an et demi. Et après, il l'a arrêté. Et les examens médicaux ont montré que ce qu'on appelle la charge virale, donc quelque part la présence du virus, était devenue indétectable. C'est donc le deuxième patient officiel, entre guillemets, qui aurait pu guérir du virus du sida. Alors, le traitement qu'il a bénéficié, ce patient de Londres, qui reste donc anonyme et qu'elle souhaitait, semble difficilement généralisable à l'ensemble des malades, parce que ce traitement est quand même assez lourd. On parle quand même d'une greffe de cellules souches, c'est pas rien, mais c'est quand même une avancée majeure. C'est une avancée qui apporte des informations intéressante aux scientifiques pour essayer de venir à bout de cette maladie et d'imaginer des stratégies de traitement, par exemple avec des thérapies géniques, bien sûr. Alors, le premier patient, Timothy Brown, avait lui aussi reçu des cellules souches d'un donneur. Il souffrait également d'un cancer du sang, une leucémie en clair. Il avait eu deux greffes, il avait subi une irradiation. Mais voilà, en tout cas, on se dit que c'est des traitements lourds, mais en tout cas, ces résultats qui sont parus dans la revue Nature et qui ont donc été annoncés officiellement il y a quelques semaines lors d'un congrès à Seattle montrent donc qu'il y a un deuxième patient en rémission durable du virus du sida. C'est parfois prometteur, c'est-à-dire que ça va permettre aussi de donner peut-être des pistes pour essayer de guérir et de combattre ce virus, ce véritable fléau. Donc voilà, l'actualité est parfois un peu lourde, mais parfois, on va dire, optimiste, et c'est ce qu'il faut souhaiter, bien sûr. On va écouter encore un titre, et puis on va continuer, là encore, de feuilleter l'actualité scientifique, et on va rester toujours au niveau de la médecine avec un antidépresseur qu'on va pouvoir injecter sous forme de spray nasal. Ça nous vient des États-Unis, là encore, c'est assez prometteur. A tout de suite sur l'antenne de Graphite. C'était Brian's Magic Tears sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique avec la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, et vous avez bien raison, bien sûr. Nous allons encore parler de médecine parce que finalement il y a eu pas mal d'annonces dans le domaine de la médecine et notamment au niveau de la dépression, avec l'Agence américaine du médicament qui a donné son feu vert pour la vente de l'esquétamine. C'est une molécule qui va être commercialisée sous forme de spray nasal et qui doit soulager des patients adultes dont la dépression résiste aux molécules actuellement disponibles, comme par exemple le Prozac. Et ce nouveau médicament sera vendu aux États-Unis sous le nom de Spravato. Il est produit par le laboratoire Janssen, qui regroupe notamment les activités pharmaceutiques du gros groupe Johnson & Johnson, et ça ne pourrait être pris que sous surveillance médicale en raison des possibles effets secondaires, bien sûr. C'est une évolution majeure dans le traitement de la dépression, c'est ce que souligne auprès de l'AFP le docteur Pierre de Maricourt, qui est chef de service de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et donc qui a participé à deux des essais cliniques qui ont été mis en place, qui concernent justement les patients atteints de dépression résistante aux traitements habituels et la lutte contre les risques imminents de suicide chez les déprimés. Donc selon les spécialistes, la dernière évolution majeure dans le traitement de la dépression remonte à une trentaine d'années avec la mise sur le marché de la fluoxétine, qui est le nom de la molécule que l'on a dans le Prozac. Donc c'est depuis 30 ans qu'on a une nouvelle évolution vraiment très importante. Notre programme de recherche très complet sur les skétamines sous forme de spray nasal démontre un profil risque-bénéfice vraiment positif pour des adultes qui souffrent d'une dépression qui résiste aux traitements actuels. C'est ce qu'a indiqué le responsable des thérapies dans le domaine des neurosciences chez Janssen. Il s'appelle Husseini Manji, et selon donc le laboratoire, la molécule a également démontré qu'elle permettait de combattre les pensées suicidaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 300 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression, une maladie qui limite la capacité à mener bien sûr une vie quotidienne normale, mais dont la gravité est souvent sous-estimée ou alors confondue avec une déprime passagère. Les cas les plus graves peuvent bien sûr mener au suicide. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. C'est ce que note l'Organisation mondiale de la santé dans un dossier consacré justement à la maladie, soulignant aussi que moins de la moitié des personnes affectées dans le monde bénéficient de traitements existants et efficaces. Et donc, il y a quelques semaines, un panel d'experts avait donné à l'Agence américaine de médicaments un avis positif pour la commercialisation de l'esquétamine en se basant sur une dizaine d'études scientifiques. Parmi ces études, il y a eu des essais qu'on appelle des essais de phase 3 qui devaient justement déterminer l'efficacité de la molécule sur des patients jugés résistants aux antidépresseurs qui sont actuellement commercialisés. Et l'Agence américaine de médicaments juge qu'un patient tombe dans cette catégorie si au moins deux traitements se montrent inefficaces. Un tiers des personnes dépressives ne répondant pas au traitement actuel, ce qui est quand même assez important. Et cette molécule, l'esquétamine, agit très vite, au bout de quelques jours seulement, très vite comparé à la plupart des antidépresseurs commercialisés actuellement et qui peuvent mettre plusieurs semaines avant d'avoir un effet. Et donc là, c'est au bout de quelques jours. Une des craintes suscitées par l'utilisation de l'esquétamine réside en fait dans les effets secondaires, bien sûr, parce que la kétamine, qui est fait partie de cette molécule qui est également la vitamine K, elle est utilisée comme une drogue euphorisante qui intensifie un petit peu les perceptions sensorielles, mais elle peut aussi parfois mener à un sentiment de dissociation, de sortie de son propre corps. Donc les effets quand même secondaires peuvent être assez indésirables et assez lourds. Selon le laboratoire, cet effet a été observé pendant les tests cliniques moins d'une heure après la prise de médicaments, quand les patients étaient encore sous surveillance des équipes médicales, et cet effet se dissipe le même jour. Pour cette raison, ce sera a priori un traitement à délivrance hospitalière en raison de la nécessité d'une surveillance du patient dans l'heure qui suit l'administration de médicaments. On ne le prend pas tous les jours et on ne le prendra pas à la maison, nous dit-on. C'est en tout cas ce qu'explique le docteur de Maricourt qui avait participé aux essais. Le médicament, en fait, il pourra être inhalé par voie nasale une ou deux fois par semaine selon le laboratoire, qui juge aussi que le risque d'addiction, qui est également évoqué, ne s'est pas concrétisé lors des essais clinique. Et bien sûr, ça ne calme pas tout le monde. Il y a notamment une association qui représente les consommateurs qui dénonce les effets secondaires des antidépresseurs et qui vote contre l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, aux États-Unis, commence à être un petit peu polémique parce qu'on considère en fait qu'on n'a pas encore un recul totalement juste et fiable sur les effets secondaires et indésirables de ce nouveau antidépresseur qui est donc commercialisé aux États-Unis, l'esquétamine, et donc qui, d'après les informations que l'on a, ou en tout cas évoquées par le laboratoire, agirait vite au bout de quelques jours et se ferait donc par un spray nasal. Voilà, c'est aussi l'actualité scientifique dans ce domaine-là, parce qu'on ne parle pas souvent dans cette émission de la dépression, dans le sens où il n'y a pas énormément de communiqués et de recherches qui sont menées, ou en tout cas qui sont diffusées à travers le monde. Et donc là, il y a une piste nouvelle, 30 ans après la mise sur le marché de la fluoxétine, cette molécule que l'on a dans le Prozac. Donc on essaiera de surveiller de près un petit peu la mise sur le marché de ce nouveau médicament pour voir vraiment la fiabilité de ce médicament et surveiller de près, bien sûr, les effets indésirables. Voilà, décidément, je trouve que cette émission est très sérieuse. Des fois, c'est très, très léger. Mais alors là, effectivement, l'actualité est assez austère. Bon, bah, c'est comme ça, c'est l'actualité qui est comme ça. On va repartir juste après un dernier titre pour terminer cette émission encore dans l'espace et vers la Lune avec le Canada qui s'y met également. Je vous dis, tout le monde veut y aller maintenant dans l'espace. Il n'y a pas de raison que ça se fasse également sans le Canada. On voit ça tout de suite après un titre sur l'antenne de Graphite. Merci de votre attention, à tout de suite. Avant de partir en fumée. Ali, c'était Primitif Moderne sur l'antenne de Graphite. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 avril et je n'ai pas du tout ce que je viens de découvrir sur le tableau du studio de Graphite, que nous sommes au plein cœur de la semaine étudiante de la durabilité. C'est jusqu'à demain et donc pendant toute cette semaine, eh bien les étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne ont participé à cette semaine de la durabilité et Graphite est partenaire bien sûr de cet événement et ils ont bien raison avec voilà, des sujets qui sont abordés sur bien sûr la transition énergétique, l'économie circulaire, les circuits courts, bien sûr tous ces sujets qui sont importants bien sûr et la sensibilisation à ces sujets-là est vraiment primordiale. Bravo pour l'initiative donc de cette semaine étudiante de la durabilité jusqu'à demain sur Compiègne. On va parler donc, pour nous quitter, parce que c'est déjà la fin de cette émission, ça passe à une vitesse, c'est effrayant, on va parler du Canada. Le Canada et son agence spatiale qui a officialisé donc la participation au projet d'avant-poste lunaire que prévoit de réaliser la NASA à l'horizon 2025. Donc là encore, c'est quand même assez court, hein, des délais assez courts, on va pouvoir assister à cela. C'est une petite station spatiale qui va être installée à proximité de la Lune, pas sur la Lune, mais un peu avant. Et cette station sera baptisée Gateway. Elle sera notamment utilisée pour préparer les étapes suivantes de l'exploration humaine du système solaire, la Lune bien sûr, et puis Mars, jusqu'aux astéroïdes notamment. Ça pourrait être assez intéressant. Elle servira aussi d'avant-poste pour des expéditions robotiques sur la Lune et plus tard pour y transporter des astronautes. Et donc sans surprise, le Canada, qui est devenu la référence en matière de bras robotiques spatiaux, va fournir le système robotique de cette station, un système qui est baptisé Canadarm 3. Donc on associe le nom de Canada bien sûr avec ARM, A-R-M qui veut dire bras en anglais, et donc ce fameux bras robotique. Et ce système héritera de près de 40 ans de savoir-faire canadien dans la robotique spatiale. C'est ce qu'explique Gilles Leclerc, directeur général de l'exploration spatiale à l'agence spatiale canadienne, parce qu'il y a bien sûr une agence spatiale canadienne, même si on en parle très rarement dans cette émission. Une expérience unique au monde qui s'est construite au fil de milliers d'heures accumulées d'opérations en orbite, telles que l'assemblage, la réparation et le support aux sorties à l'extérieur des véhicules spatiaux. Ainsi, le Canada a donc réalisé les bras télémanipulateurs des navettes. Ils ont assisté également ils ont mis en place pas mal de dispositifs qui ont été utilisés notamment sur la Station Spatiale Internationale et on est donc cette fois la troisième génération de bras robotiques qui va être totalement différente des anciens dispositifs qui avaient déployé parce que la technologie a considérablement évolué depuis les années 80 où on avait développé ses premiers bras robotiques, l'époque à laquelle ont été conçus des bras robotiques, parce que l'idée en fait ça va être de résister à des niveaux de radiation très importants que n'avaient pas eu à se soucier les premiers dispositifs, mais là maintenant ça devient sérieux et l'agence spatiale canadienne travaille donc sur le concept d'un bras d'une taille de 8,50 m, c'est quand même des grands bras hein, bien sûr, et d'une masse de à peu près 715 kilos, ce qui est, on va dire, grosso modo, moitié moins de ce qui existait jusqu'à maintenant. Et ce système robotique sera aussi plus intelligent que la génération des bras précédents et sera capable de réaliser aussi des tâches en totale autonomie. C'est ça qui est intéressant. Il y a des modules autonomes embarqués qui permettront de percevoir un petit peu l'environnement. Ça va permettre en fait à ce robot, ça demeure un robot, même si c'est en forme de bras, ça reste un robot, d'avoir des petits dispositifs qui vont lui permettre de percevoir son environnement et de planifier lui-même ses tâches. Il va être tout seul, il va faire ce qu'il veut. Il est autonome, c'est génial. Une intelligence, une autonomie qui sont une nécessité bien sûr, parce que cette fameuse station lunaire Terre sera dans un premier temps inhabité pendant de longues périodes. C'est-à-dire qu'on ne va pas les emmener à un mécanicien pour essayer de s'en occuper. Donc il y a vraiment l'idée que ce robot reste seul, puisse travailler seul et puisse, évoluer dans un environnement qui n'est quand même pas toujours le plus optimal possible, dans un délai assez long. Et en plus, on est dans l'idée que quand on parle, je vous parle presque en direct, dans le sens où vous m'écoutez instantanément, mais quand on part dans l'espace, il y a des délais de communication qui sont assez longs entre le moment où on va indiquer, envoyer un message et qu'il soit reçu par la suite par le robot, il y a un délai assez long et donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc il ne faut pas qu'il attende les instructions, il faut qu'il puisse réagir vite et d'une façon intelligente. L'autre particularité, alors que le canard d'armes sur la navette spatiale était opéré en orbite par les astronautes, l'idée c'est de pouvoir essayer de réaliser les opérations depuis le sol canadien. Donc il y a bien, comme je vous le disais, cette idée de distance. Alors, ce bras, il va être conçu pour essayer d'assurer la maintenance, la réparation, l'inspection de la station spatiale lunaire, essayer de manipuler, de déployer des instruments scientifiques, de pouvoir déplacer des modules, de pouvoir aider les astronautes quand ils seront maintenant après là-bas sur place à effectuer des sorties dans l'espace et permettre aussi de mener des expériences scientifiques en orbite et sur la surface lunaire. Dans un contexte où les projets scientifiques et commerciaux d'utilisation de l'espace sont de plus en plus important, cette décision de construire ce bras robotique vise aussi à conserver le leadership mondial du Canada dans la robotique spatiale. Effectivement, s'ils sont les premiers, autant qu'ils prennent de l'avance et qu'ils gardent un petit peu ce leadership. Justin Trudeau, qui est le premier ministre canadien, a précisé que la participation du Canada justement à cette station spatiale pré-lunaire, on n'est pas sur la Lune, on est un petit peu juste avant, s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle stratégie spatiale du Canada, pour lequel il a annoncé quand même un investissement de plus de 2 milliards de dollars sur 24 ans, ce qui est quand même assez considérable. Et l'idée, c'est justement de pouvoir répondre à des besoins spécifiques, l'assemblage, le ravitaillement en orbite. Donc il y a vraiment des opérations importantes qui vont pouvoir être menées par ce bras robotique qui donc va être développé par le Canada. C'était important, comme on parle souvent d'espace dans cette émission, de parler du Canada qui lui aussi participe bien sûr à cette exploration spatiale. On suivra bien sûr tout cela dans les prochaines émissions de Biotine sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit si vous le souhaitez, pour continuer à parler de science. Merci de votre attention. Bonne journée à tous.